Force Info.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue aux informés sur France Info à la radio et à la télé, canal 27 de la TNT. À la une ce soir, les annonces d'Emmanuel Macron sur la fin de vie, entretien à la Croix et Libération, la campagne des européennes et les meetings de ce dimanche, Raphaël Glucksmann pour la gauche et Marion Maréchal pour l'extrême droite. Les populistes en position très favorable également au Portugal ont voté aujourd'hui pour des législatives anticipées. Et puis les Oscars cette nuit aux États-Unis, le film français Anatomie d'une chute sera-t-il parmi les grands gagnants de la cérémonie? Pour en parler, Amélie Le Breton, bonsoir.
Bonsoir.
Présidente de l'agence de communication Corioling, Rachel Garabal-Carcel est avec nous, bonsoir. Journaliste politique à 20 minutes, à vos côtés Jean-Christophe Ploquin, bonsoir.
Bonsoir.
Rédacteur en chef de La Croix, dont il sera beaucoup question ce soir. Et Daïk Odoui, bonsoir Daïk.
Bonsoir Victor, bonsoir tout le monde.
Journaliste politique à France Info, la télé, c'est parti pour une heure de débat. Après la Convention citoyenne sur la fin de vie l'an dernier, l'heure est donc aux arbitrages au plus haut sommet de l'État. Emmanuel Macron qui a donné une interview à nos confrères et partenaires des Informés de la Croix et Libération. Bonsoir Solène Lehen.
Et bonsoir.
Spécialiste des questions de santé à France Info, le président s'est donc exprimé sur ce sujet sensible de la fin de vie, un projet de loi ouvrant, dit-il, l'aide à mourir en France. Il sera discuté au Parlement à partir du mois de mai. Emmanuel Macron qui dresse ce qu'il avait appelé le futur modèle français de la fin de vie.
Oui, et même s'il préfère employer l'expression générale d'aide à mourir, dans les faits, dans le détail, il propose l'option du suicide assisté avec exception d'euthanasie. Qu'est-ce que ça signifie ? Suicide assisté, c'est la personne qui souhaite mourir qui fait le geste. Elle s'injecte ou boit elle-même le produit létal, sauf si elle en est incapable physiquement. Alors seulement dans ce cas, c'est la possibilité, l'exception d'euthanasie. C'est un médecin, un infirmier ou un proche qui donne la mort en administrant le produit létal.
Solène, il y aura des conditions pour cette aide à mourir.
Et oui, le malade doit remplir plusieurs critères. Être majeur, capable de discernement. On exclut ainsi les patients atteints de troubles psychiatriques ou de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Le malade doit souffrir d'une pathologie incurable, avoir des souffrances qui ne peuvent être soulagées et un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. En général, on entend par là qu'il reste entre 6 et 12 mois de vie. Une fois que le malade en aura fait la demande, il y aura un délai de réflexion de 2 jours. Puis la demande sera examinée dans les 15 jours par un collège de soignants avant ou non d'être approuvée. Il y aura ensuite une discussion pour savoir où se fera l'acte, à l'hôpital, à domicile ou ailleurs. Les soignants qui ne souhaiteraient pas prendre part au processus pourront faire valoir leur clause de conscience. Emmanuel Macron met donc fin à plusieurs mois de tergiversation. Il va dans le sens des conclusions de la Convention citoyenne. C'est 184 Français qui avaient planché l'an dernier sur la question. À la fin, les trois quarts s'étaient dit favorables à une aide active à mourir. Introduire l'aide à mourir dans cette interview, c'est pour le président, je cite, nécessaire parce qu'il y a des cas qu'on ne peut pas accepter humainement dans notre pays aujourd'hui, laissant entendre que la loi actuelle ne répond donc pas à toutes les situations. Aujourd'hui, la loi permet la sédation profonde et continue, être endormi jusqu'à la mort pour ne pas souffrir, pour des personnes en toute fin de vie à quelques jours de leur mort. Et puis pour Emmanuel Macron, la future loi, je cite, loi de fraternité, permettra de choisir le moindre mal quand la mort est déjà là.
Quel sera le calendrier, Solène ?
Alors le projet de loi sera présenté dès le début du mois prochain en Conseil des ministres. L'examen débutera dès le mois de mai au Parlement. À noter qu'il y aura aussi un volet supplémentaire à ce texte, une deuxième jambe nécessaire, estime le président. Le développement en parallèle de l'offre de soins palliatifs, d'un accompagnement de la douleur, mais aussi accompagnement psychologique jugé insuffisant en France. Aide à mourir d'un côté, soins palliatifs de l'autre, l'un ne va pas sans l'autre, les deux doivent être complémentaires, estime le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, de nombreux observateurs continuent de dire que l'on meurt mal en France.
Solène Lehen du service Sciences et Santé de France Info, merci à vous. Avant de revenir sur le fond de cette interview d'Emmanuel Macron et du cadre politique aussi de ses annonces, un mot avec vous, Jean-Christophe Ploquin, des conditions dans lesquelles s'est fait cet entretien dans votre journal La Croix, avec aussi, on le rappelle, Libération. Cette interview, elle est Elle était prévue depuis quand ?
Alors nous, on avait fait la demande depuis déjà plusieurs semaines, hein, puisque les enjeux éthiques sont très importants pour la Croix, de façon générale, et on savait que ce débat sur la fin de vie était majeur dans le calendrier français, et qu'il était attendu par beaucoup de Français. Donc on avait fait une demande pour faire cette interview avec le Président de la République, et c'est l'Élysée qui a proposé à la Croix et à Libération de faire l'interview ensemble, et je crois qu'on n'a pas hésité. C'est-à-dire, ça nous paraissait, d'abord, on a évidemment beaucoup d'estime pour les confrères de Libération et pour ce journal. Et ensuite, finalement, ça nous paraissait intéressant. On voit bien le calcul que pouvait avoir l'Élysée en nous tendant cette perche. D'un côté, un journal, le nôtre, qui est assez prudent sur les enjeux bioéthiques, qui voit bien des risques qui peuvent être développés. Et de l'autre, Libération, qui est un journal qui est au contraire plutôt allant sur ces enjeux de l'aide à mourir. Donc voilà, pour le président de la République, c'était l'occasion de s'adresser en même temps, à deux publics assez différents et à montrer que lui-même finalement essayait de tenir vraiment une position d'équilibre, entre les deux, je dirais, traditions un petit peu philosophiques.
C'est bien joué, on va dire, d'un point de vue communication, Amélie Le Breton, de s'être adressée aux Français par la voix de ces deux journaux, La Croix et Libération.
Quand on fait de la politique, on sait que le message qu'on donne, il est aussi, il est important sur le fond, mais aussi de la manière dont on l'envoie aux citoyens. Et là, effectivement, c'est une première d'avoir fait. J'ai demandé à Jean-Christophe avant le début du plateau. C'était la première fois qu'il travaillait avec Libération sur ce genre de sujet. Il m'a confirmé que oui. Et effectivement, La Croix est connue pour être un journaliste donc catholique avec des positions très intéressantes et un travail très rigoureux sur tout ce qui est l'éthique. Et Libération, on attend forcément de ce journal plus à gauche d'être en pointe sur des questions justement de l'aide à mourir. Et donc oui, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, il va s'adresser à un grand nombre et il a justement fait attention d'avoir un équilibre et de justement, il montre que ce texte, son choix, parce que c'est le titre que vous avez choisi, c'est le choix d'Emmanuel Macron, s'adresse à tous les Français puisqu'il a choisi deux journaux qui sont révélateurs ou qui représentent une partie forte de la population française à eux deux.
Ces annonces sur la fin de vie, on y revient dans un instant. La suite de la discussion, 20h10, d'abord le fil info avec vous Stéphane Milhomme.
Quatre personnes restent portées disparues dans le sud-est de la France après les intempéries à Gagnères. Le corps retrouvé est bien celui du sexagénaire emporté par les eaux hier soir au volant de son 4x4. Deux femmes sans vie extraites de leur véhicule, cette fois à Goudargues. Après le droit à l'avortement dans la Constitution, Emmanuel Macron se penche donc sur la question de la fin de vie. Le chef de l'État annonce un projet de loi pour une aide à mourir sous conditions strictes. Les patients concernés, adultes, se verront prescrire un produit létal à s'administrer seul ou avec assistance. Une interview dès ce soir dans Libération et La Croix. Le Ramadan, un mois de jeûne, de prière et de partage pour les musulmans, commencera bien demain en France. Confirmation de la Grande Mosquée de Paris. Le Ramadan commence au Proche-Orient sur fond de conflits entre le Hamas et Israël. Un navire humanitaire attend toujours de pouvoir emprunter un corridor maritime depuis Chypre. La 25e journée de Ligue 1 de football. Suite, Lille, menée de 2 buts, renverse Rennes en 8 minutes. Score final 2 partout. Le LOSC récupère sa 4e place. À suivre dès 20h45, l'Olympique de Marseille qui affronte Nantes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et cet entretien donc d'Emmanuel Macron dans La Croix et Libération sur cette aide à mourir, plusieurs annonces, ce que l'on comprend d'Aïkodoui avec ces annonces d'Emmanuel Macron qui veut esquisser, on l'a dit, un modèle de fin de vie à la française, c'est qu'on se rapproche plus du suicide assisté qui existe en Suisse que de l'euthanasie en Belgique, même si aucun des deux termes n'est utilisé ici.
Oui, parce que ce qui moi frappe dans cette interview, c'est l'extrême prudence d'Emmanuel Macron sur les termes. Il ne faut pas que ça apparaisse euthanasie ou suicide assisté, donc c'est aide à mourir, aide active à mourir. Alors il explique que l'euthanasie, il n'y a pas de consentement, et le suicide assisté, c'est pas forcément... encore une fois, ça choquerait la population, parce que il y a un clivage en France quand même sur ces questions-là. Tout le monde est d'accord sur le principe. Après, qu'est-ce qu'on met derrière le principe ? C'est là où il y a l'enjeu politique. Parce que il est très prudent à la fois sur l'encadrement, mais il est moins prudent, et je ne réponds pas tout à fait à votre question, Victor, mais c'est une façon déjà de politiser la question. C'est qu'il est prudent dans les termes. En tout cas, dans le calendrier, il est absolument pas prudent. Puisqu'il promet un projet de loi qui sera discuté au Parlement dès, en première lecture, dès le mois de mai. Donc c'est assez rapide.
Oui, et il prend. Ça reste une procédure normale, donc très lente.
Tout à fait, mais quand on entendait Yael Braun-Pivet à France Inter...
Avec des discussions
la semaine,
qui devraient
elle disait,
emmener jusqu'à
oui,
la fin
ça
2025,
peut durer très longtemps, jusqu'à... Voilà, donc on prend son temps, et là, il a l'air de moins vouloir prendre son temps, parce que la date... Mais c'est là où j'en viens, Rachel. C'est que la date du mois de mai, ça vous a pas échappé, c'est un mois avant les élections européennes. Donc on va débattre un mois avant les élections pérennes de ce projet de loi. Et là aussi, il y a eu un changement d'Emmanuel Macron, parce qu'encore il y a deux mois, lors de ses vœux aux forces religieuses, il avait évoqué deux projets de loi. L'un sur la fin de vie et l'un sur les soins palliatifs, qui on va dire...
C'est ambigu.
C'était ambigu. En fait, mais voilà, là, il laisse cette ambiguïté, donc c'est tout en même temps, ce qui peut-être peut participer au fait que ce projet de loi puisse passer, parce que tout le monde est d'accord pour les soins palliatifs. La droite, l'extrême droite sont moins d'accord avec la fin de vie, mais la gauche, elle est plutôt d'accord. Et vous imaginez un texte en première lecture qui pourrait être voté par les voix de la gauche avant les élections européennes, si c'est pour dire que moi, Emmanuel Macron, bah, contrairement à ce qu'on dit, que je suis dans un virage droitier, c'est pas vrai. Ben, vous voyez un peu le scénario de ce calendrier ?
Rachel Garamal-Carcel, on est pour vous clairement dans le calcul politique, cette loi qu'on attendait depuis très longtemps, elle arrive finalement et bon, on se plaint encore.
Je crois pas qu'on soit... Enfin, il y a forcément un calcul politique, rien n'est tout à fait gratuit, sachant en plus que Emmanuel Macron, on le voit depuis 7 ans, sur les questions de société, il est extrêmement prudent pour pas dire... Je pense, lui, à titre personnel, plutôt conservateur sur ces sujets-là. Sur l'IVG, globalement, le Parlement lui a quand même un peu tendu le bras. Et même avant, sous le précédent mandat, souvenez-vous, la PMA, ça avait traîné. L'allongement du délai de l'IVG, ça avait traîné aussi très largement. Et pense-t-on à cause d'Emmanuel Macron. En revanche, ce qui est vrai, et là je rejoins plutôt Daïk, c'est que depuis un mois, on est sur une séquence... J'allais dire très à gauche d'Emmanuel Macron, la panthéonisation de Michak Manoukian, l'IVG, même si il n'est qu'un allié de la 25e heure de la constitutionnalisation, et là la question de l'aide à mourir, même si il y a beaucoup à redire, parce qu'en fait on n'apure pas du tout le sujet. J'ai pas souvenir dans les 7 dernières années qu'on ait eu une séquence aussi progressiste de la part d'Emmanuel Macron. Peut-être que ça arrive surtout plus qu'avant les européennes. Après la loi immigration.
Jean-Christophe Ploquin, vous avez le sentiment que ces annonces d'Emmanuel Macron dans votre journal La Croix, cela correspond à ce qu'attendaient les Français ?
Alors, en tout cas, on sait que dans les sondages, il y a une majorité qui souhaite que la loi évolue, et ça a été aussi exprimé par le Conseil national d'éthique et par la Convention citoyenne. Donc, le fait d'avancer sur l'aide active à mourir, il y a un mouvement effectivement qui s'opère dans la société, mais avec en même temps, je dirais, deux pôles, soit de résistance, soit d'interrogation très vive et qui émane un peu des représentants des religions et puis qui émane aussi du corps médical. Et donc le corps médical, de façon très récurrente, il y a quelques petites exceptions ici, mais les institutions disent en gros, écoutez, nous, notre métier, c'est de soigner, c'est pas d'infliger la mort. Donc là, il y avait un blocage qui existait, et je vois tout à fait la logique du positionnement par rapport aux élections européennes. En même temps, je pense qu'on est vraiment dans ce processus d'élaboration. Je pense qu'il faut se féliciter finalement d'une démarche qui a d'abord choisi de demander l'avis d'un conseil consultatif dans lequel il y a des représentants très éminents et très variés de la médecine et de différents corps sociaux. Et ensuite, cette démarche citoyenne aussi pour donner le temps. Et juste un petit mot justement sur ce travail en commun avec Libération. Je trouve que symboliquement, c'est intéressant de se dire que sur un enjeu comme ça aussi fort, qui touche vraiment à la perception que nous avons de la vie et de la mort, qui touche aussi souvent à des questions très intimes, parce que beaucoup d'entre nous...
Regarder la mort en face, dit Emmanuel Macron.
Beaucoup d'entre nous ont été confrontés un peu à ce sujet de la mort d'un proche. Et donc, sur une question aussi sensible, avoir deux médias qui ont des positions différentes, travailler ensemble, je pense que c'est le signe, justement, que sur ce type de débat, il faut avancer dans le respect des opinions et sans incantation et sans posture.
On n'avance pas presque avec trop de prudence, Daïk Odoui, sur ce sujet de la part d'Emmanuel Macron ?
S'il veut que son projet de loi soit voté, et c'est quand même l'un de ses objectifs, il faut aller avec une certaine prudence, parce que comme on l'a vu en matière d'IVG, mais encore plus, il n'y aura pas de consigne de vote par parti, chacun sera dans sa liberté de conscience, et autant l'IVG, la structure politique, elle était facile, hein, une partie d'LR, une partie de l'extrême droite était hostile à sa constitutionnalisation, là, sur la fin de vie, vous avez des gens qui sont hostiles à l'aide active à mourir telle que va la proposer Emmanuel Macron, a priori, ils seront aussi bien de gauche que droite. Il y a une lecture politique qui est très compliquée à faire. Là, on vient juste d'apprendre le projet de loi, mais je suis incapable de vous dire si ce projet de loi va être voté. Je sais qu'il y a les soins palliatifs, où là, il y a presque un consensus, presque une unanimité, si ça jette de dire, il faudra développer les moyens pour étendre les soins palliatifs à l'ensemble de la France. Sur le reste, on va écouter les réactions politiques au fur et à mesure de la soirée et demain. Je ne peux pas vous dire quel va être le sort politique de ce texte.
Amélie Le Breton parlait de sujets sociétal. Est-ce que ça va être finalement la grande mesure sociétale du quinquennat d'Emmanuel Macron, et même peut-être depuis 2017?
Alors, il va falloir attendre ce que ça va donner au Parlement, parce que justement, si ça accouche d'une souris, et donc là, les parlementaires ont un gros travail à faire, parce que ça fait des années et des années que la population française, elle attend de savoir quel est le choix politique. En France, on a quand même ce flou, alors que les familles de malades ont besoin de réponses, les malades eux-mêmes ont besoin de réponses, et aujourd'hui, donner un cadre qui serait enfin clair c'est légitime, parce que c'est beaucoup demandé par les citoyens. Et c'est là où l'intervention des parlementaires, ça va être extrêmement intéressant à suivre. On va voir s'ils mettent autant de cœur et s'ils sont autant dans le détail, par exemple, sur le projet de loi sur les retraites, la réforme des retraites, parce que là, on est sur un sujet qui touche au plus profond de la nation, parce que c'est les individus qui l'a composé. Et on voit bien qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a eu beaucoup de procès, il y a trop de flou aujourd'hui, donc j'espère que les parlementaires auront à cœur d'être très clairs sur leur ligne, justement pour trouver la ligne qu'il faut amener, ce choix qui enfin serait fait pour les Français.
Et cet entretien d'Emmanuel Macron à lire donc dans La Croix et Libération, on y reviendra largement ce soir sur France Info et demain matin. La suite des informés dans un instant, 20h20, d'abord le fil info avec Stéphane Milhomme.
Le Portugal va-t-il basculer à droite? Réponse après 21h à la fermeture des bureaux de vote. La coalition de droite tente de ravir le pouvoir aux socialistes et à son premier ministre sortant. Dans la tourmente d'une affaire de corruption, l'extrême droite peut jouer un rôle d'arbitre au vu des derniers sondages. 3 morts déjà identifiés dans le Gard. L'automobiliste emporté par les eaux hier à Gagnères, au nord du département. Et puis 2 femmes de 47 et 50 ans à Goudargues dans un autre véhicule. 4 personnes restent portées disparues, dont 2 enfants toujours dans le Gard, disparus également en Ardèche. Gérald Darmanin s'est rendu au PC de crise de son ministère. Il évoque un total de 35 sauvetages en France. À 200 km de là, à Perpignan, et parce que la sécheresse historique perdure, des habitants, des religieux ont participé aujourd'hui à une procession pour appeler à la pluie, signe du manque de précipitations. Les porteurs d'une statue de Saint Baudéric, patron des agriculteurs, ont pu s'avancer jusqu'au milieu du lit de la rivière Tête. Le 15 de France se relance et bat le Pays de Galles 45 à 24 sur ses terres. C'est son deuxième succès. Prochain match samedi prochain face aux Anglais, toujours dans le tournoi des 6 nations. Et puis, dernière heure de suspense avant la cérémonie des Oscars, la nuit prochaine à Hollywood, en compétition Anatomie d'une chute de la Française Justine Triet, nommée dans 5 catégories, même si le grand favori reste le film américain Oppenheimer.
France Info. 20h, 21h. Les informés, Victor Mattet.
À 3 mois, presque jour pour jour, des élections européennes, ce sera le 9 juin en France. Les meetings de campagne se poursuivent après Renaissance et Valérie Ayer. Hier, c'était au tour ce dimanche de Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique à Lyon, mais aussi à Paris, de Marion Maréchal, tête de liste Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Commençons par écouter Raphaël Glucksmann.
Je vois bien la stratégie des communicants macronistes. Ils vont tout faire pour renationaliser le débat, tout faire pour, encore une fois, nous rejouer le match Macron-Le Pen. Tout faire pour kidnapper à nouveau les élections et nous enfermer à nouveau dans l'appel au barrage. Alors permettez-moi aujourd'hui de m'adresser à eux, les stratèges en communication de notre président. Votre comédie ne marche plus. Cela ne fonctionnera pas.
Voilà les mots de Raphaël Glucksmann, troisième dans les sondages pour l'instant derrière le Rassemblement National et Renaissance pour ces européennes. Rachel Garabal-Carcel, il est à la fois cible d'attaque de Renaissance, mais aussi de la France insoumise. Il fait si peur que ça, Raphaël Glucksmann ?
Je ne sais pas s'il fait si peur que ça, mais effectivement, il se retrouve sur un espace politique qui est envié par plusieurs groupes. Effectivement, du côté de Renaissance, on a peur de voir les derniers macronistes de gauche revenir au bercail, d'une certaine manière, après la séquence de la loi immigration.
Parce que Renaissance installe beaucoup le duel avec le Rassemblement national, mais finalement, il est plus proche de Raphaël Glucksmann dans les
sondages. Absolument, c'est ça. Alors, à bonne distance, hein, néanmoins, puisque Raphaël Glucksmann, au mieux, il est à 10-11, et les macronistes, au pire, à 17-18, mais effectivement, ils sont plus près de Raphaël Glucksmann. Après, voilà, avant le croissement des courbes, il y a un petit peu de temps. Et puis, il y a évidemment les Insoumis qui, eux, sont beaucoup plus près de Raphaël Glucksmann. Ils sont entre 6 et 8 selon les sondages. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant d'entendre les Insoumis viser beaucoup plus Glucksmann lui-même que les socialistes. En fait, quand on les écoute un peu attentivement, ils font une différence de ligne entre Glucksmann, qu'ils jugent très atlantiste, très libéral, limite macroniste, et les socialistes, peut-être pour pas tout à fait hypothéquer les espoirs d'union après les élections européennes.
C'est ce que j'allais vous demander, Jean-Christophe Floquin, ce qui se joue pour ces européennes à gauche, c'est le leadership pour 2027. Jean-Luc Mélenchon affaibli, ce serait une mauvaise nouvelle pour lui.
En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a au moins 5 listes à gauche, donc ça va conduire à fragmenter une nouvelle fois, en quelque sorte, le vote à gauche, et pour effectivement, c'est la liste conduite par Raphaël Glucksmann qui l'emporte. Il y a quelque chose que je retiens et je trouve que c'est intéressant même pour nous journalistes, quand il dit attention, les communicants de l'Élysée veulent installer le match. Je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit attentifs nous aussi à regarder ce qui se passe du côté des autres listes. C'est pas parce qu'elles sont pas forcément très fortes dans les sondages, elles représentent quand même des sensibilités politiques, elles représentent certaines visions à la fois de la France et de l'Europe. Et donc, je pense que c'est très intéressant et c'est très bien que là, on ait l'occasion de parler de Raphaël Glucksmann et de Marion Maréchal.
Rachel.
Hier, c'était d'ailleurs très intéressant au meeting de Lille du lancement de la majorité où j'étais. Il n'y a que deux listes qui existent pour les macronistes, la leur et celle de Jordan Bardella. Les autres n'existent pas.
Amélie Le Breton, justement, on a l'impression qu'il y a cette stratégie de chaque parti de s'attaquer les uns les autres. On oublie un peu les enjeux européens et ce que représente finalement cette élection.
Ah bah toujours. C'est-à-dire que les élections européennes, c'est le parent pauvre de la politique, hein, pour ceux qui s'y intéressent. Donc il y a plein de gens d'ailleurs qui ne savent pas qu'il n'y a qu'un tour et que c'est le 9 juin. Donc, que c'est une liste avec proportionnelle. Enfin bref, donc il y a plein de choses qu'on ne connaît pas autour de... Et ça a toujours été un enjeu, les enjeux français. Alors, pour ceux qui s'en souviennent peut-être, on est en 2009, et en 2009, le Parti Socialiste, sur son tract, dit « Stop Sarkozy, stop Barroso ». Donc, alors que Sarkozy, à ce que je sache, était président de la République, mais il n'était pas du tout au Parlement européen.
Barroso était président de la Commission, quand même.
Oui, il était président de la Commission, mais on parlait du Parlement européen. Enfin, il y avait les amalgames français. En France, on aime beaucoup parler de ce qui se passe en France pour essayer de briller sur la scène européenne. Et on oublie parfois qu'il faudrait un programme lié à ce qui se passe au niveau européen. Et après, sur Raphaël Glucksmann, effectivement, c'est intéressant de la part et du RN, et là, pour le coup, des macronistes avec Renaissance, d'essayer de l'évincer, c'est-à-dire de l'effacer, parce qu'il a une partie de son électorat qui va hésiter potentiellement entre les deux, entre Renaissance et Place Publique Parti Socialiste. Et on reparlera tout à l'heure avec le Rassemblement National de plutôt de la forme, de la scénographie des meetings. Il a quelque chose, Raphaël Glucksmann, c'est pas un communicant né, mais il a déroulé depuis qu'il est au Parlement européen sa petite musique, il arrive à quand même faire passer ses messages. À côté de lui, on en a pas encore parlé, mais Europe Écologie Les Verts n'existe pas sur cette campagne, en tout cas pas encore, et ça va lui donner un terrain très fort, et donc dans les prochaines semaines, et notamment grâce au débat qu'il va y avoir, il va prendre de plus en plus de place.
Un mot rapide d'Aïko Douy sur ce meeting.
Il y a un fantasme autour de Raphaël Glucksmann qui est le fantasme des socialistes non-nup. Donc ils veulent faire jouer un rôle à Glucksmann que lui n'a pas forcément envie de jouer, c'est de vraiment mettre loin derrière Jean-Luc Mélenchon pour tuer Jean-Luc Mélenchon dans le cadre d'une union éventuelle pour la candidature à la présidentielle. Donc vous avez quelqu'un comme Hollande qui, quand vous discutez avec lui, n'arrête pas de dire du bien de Raphaël Glucksmann et de dire « ouais, je suis prêt à faire la campagne de Raphaël Glucksmann ». Je ne suis pas sûr que ce soit le vœu le plus cher de Raphaël Glucksmann que François Hollande soit lors dernier meeting à ses côtés, mais voyez, il y a un fantasme en disant « voilà, Raphaël Glucksmann, il va prendre des voix à l'aile gauche de la Macronie, ça va l'amener à 13-14%, il va mettre loin derrière les écologistes et Jean-Luc Mélenchon, et ça, les socialistes ont dupe. Et voilà, ils fantasment là-dessus. Pour l'instant, les enquêtes d'opinion ne leur donnent pas raison. Raphaël Glucksmann est troisième, mais il ne perce pas quand même. Il n'y a pas une dynamique formidable autour de lui.
De la gauche à l'extrême droite, on s'intéressera au meeting de Reconquête et Marion Maréchal dans la seconde partie. Des informés, à tout de suite.
L'info actualisée en permanence, c'est le fil info de France Info.
Les virements bancaires seront bientôt instantanés dans toute l'Europe.
Toutes les 10 minutes.
L'Union européenne a adopté un règlement qui imposera aux banques de proposer un service de virement en moins de 10 secondes, y compris vers les autres pays européens et au même tarif qu'un virement classique.
L'info en temps réel, c'est le fil info de France Info.
France Info, pas juste l'info, l'info juste.
France Info Météo. Avec le CIC Entreprise à Mission. Répondre au coût de la vie étudiante en aidant les jeunes à financer leurs études supérieures, c'est ça construire pour que le monde bouge.
Le temps, Patricia Charbonnier.
Les fortes pluies qui ont touché le sud de la France se sont évacuées vers l'Italie, mais les crues sont localement très importantes et le ciel est encore très nuageux et instable ce soir avec de fréquentes averses. Et pour demain, même scénario, le temps restera nuageux avec encore quelques pluies résiduelles tout au long de la journée près des frontières du Nord et ce régime d'averses installé sur la plupart des régions pour demain. Des averses localement fortes et orageuses entre le Massif central et la Nouvelle-Aquitaine, accompagnées de bonnes bourrasques de vent et la neige à partir de 1000 mètres sur le Massif central, les Alpes du Nord et sur les Pyrénées. Attention, le risque d'avalanche sera très marqué demain sur l'ouest de la chaîne pyrénéenne. Dans l'après-midi, nous aurons un petit peu moins d'averses et de belles éclaircies près de la Méditerranée et sur le centre-ouest avec des températures comprises entre 2 et 10 degrés demain matin et de 8 à 16 degrés dans l'après-midi avec 16 degrés de maximum à Toulon, 13 degrés à Paris et 11 à Lille.
Merci Patricia Charbonnier, 20h30 sur France Info. L'info, Marie-Marty Rossian.
Il a déjà raflé 34 récompenses, mais sera-t-il sacré d'un Oscar ce soir lors de la 96e cérémonie des récompenses du cinéma aux États-Unis? Le film de Justine Triet, Anatomie d'une chute, est nommé ce soir dans 5 catégories, dont celle pour le meilleur film et la meilleure réalisation. Alors à l'approche de cette grande cérémonie, c'est un moment émouvant pour l'équipe du film, raconte la coproductrice d'Anatomie d'une chute, Marie-Ange Luciani.
Il y a eu quand même beaucoup de péripéties. Et oui, il y a un peu aussi de nostalgie, j'avoue, parce que je pense qu'on va maintenant terminer la longue route des récompenses et des honneurs qu'a été ce film, quoi. Et on va évidemment devoir passer à autre chose. En même temps, on est heureux de ça parce que je pense qu'on est allé au bout de tout ce qu'on pouvait faire avec ce film et heureux de commencer à travailler d'autres choses, mais aussi un peu mélancolique et à l'idée de devoir se séparer.
Et le verdict, c'est donc ce soir pour Anatomie d'une chute, nommé, on le rappelle, dans 5 catégories. Derrière les 13 nominations d'Oppenheimer, le film de Christopher Nolan, grand favori de la soirée. Dans le reste de l'actualité, le Premier ministre Gabriel Attal s'associe, je cite, à la peine et aux inquiétudes des proches des personnes disparues dans le sud-est de la France suite aux fortes intempéries. 3 corps sans vie ont été retrouvés dans le Gard aujourd'hui. Parmi eux, 2 femmes dont le véhicule avait été emporté par les flots la nuit dernière. 4 autres personnes sont toujours portées disparues. Et 9 départements sont toujours en vigilance orange, dont 8 qui le sont pour le phénomène de crues. 6 randonneurs à ski toujours portés disparus dans les Alpes suisses. Ils étaient partis hier de Zermatt dans le sud du pays. D'importants moyens de recherche sont mobilisés pour les retrouver. Les opérations se poursuivent cette nuit. Opérations compliquées en raison des mauvaises conditions météo sur place. Un deuxième immeuble évacué aujourd'hui à Toulouse, à proximité de celui qui s'est effondré hier sans faire de victimes. Une mesure de précaution alors alors que des fragilités ont été détectées sur ce deuxième bâtiment, annonce la mairie. Une cinquantaine de personnes ont donc dû quitter leur logement. Un projet de loi pour une aide à mourir, annonce d'Emmanuel Macron ce soir. Ce texte de loi sur la fin de vie doit être présenté le mois prochain en Conseil des ministres. Une aide à mourir sous des conditions strictes, explique le président, destinée aux patients majeurs atteints d'une maladie incurable et capable d'un discernement entier. Les Portugais appelés aux urnes ce dimanche pour des élections législatives et après 8 ans passés au pouvoir, le gouvernement de gauche risque de devoir composer avec l'extrême droite. Les premiers résultats sont attendus à partir de 21h ce soir. Un petit mot de biathlon et la française Lou Jeanmonod a remporté la poursuite aujourd'hui à Soldier Hollow aux États-Unis. C'est sa 3e victoire en Coupe du Monde. Sa compatriote française Julia Simon a pris elle la 3e place. Et puis la très large victoire du 15 de France au tournoi des 6 nations en rugby aujourd'hui. Après un début de match difficile, les Bleus ont battu le Pays de Galles 45 à 24 tout à l'heure. Et tout de suite, les informés continuent avec Victor Maté sur France Info.
Les informés, Victor Maté.
Et ils sont toujours là dans le studio de France Info, Amélie Le Breton de l'agence de communication Corioling, Rachel Garaval-Carcel du journal 20 minutes, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix et d'Aïkodoui, journaliste politique à France Info, la télé. Nous évoquions les européennes et Raphaël Glucksmann. L'autre meeting du jour, c'était celui de reconquête à l'extrême droite. Après Éric Zemmour, c'est la tête de liste Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui a pris la parole.
Je voudrais ici m'adresser aux Français tentés par le Frexit avec amitié, car je comprends votre colère, et à vrai dire, je la partage. Mais je vous le dis fraternellement, je vous le dis de patriote à patriote, ce n'est pas au moment où la droite forte, populaire, souverainiste, conservatrice progresse partout en Europe, où nos amis et nos alliés conquièrent le pouvoir dans de si nombreux pays qu'il faut déserter. Parce que nous sommes face à un moment historique, pour la première fois de l'histoire, nous avons l'opportunité de prendre le pouvoir au Parlement européen.
Aïkodoui, vous étiez présent à ce meeting à Paris pour France Info. Elle veut convaincre les électeurs, Marion Maréchal, parce qu'à l'extrême droite, pour l'instant, la dynamique de reconquête est à l'extrême inverse de celle du Rassemblement National.
Ouais, c'était assez étonnant ce meeting. Il y avait un paradoxe. C'était à la fois une démonstration de force, de mobilisation militante. C'est réussi. Il y avait le Palais des Sports, c'est l'ancien nom du Dôme de Paris, était rempli. Il y avait des accents de la campagne présidentielle. Force dans le vocabulaire qui était d'une virulence et d'une véhémence, presque d'une violence, considérant qu'il y a une guerre de civilisation en Europe entre l'islam et la chrétienté et que l'Union européenne est du côté de l'islam, soit par naïveté, soit par idéologie, mais elle menace presque de guerre Erdogan. Hein. Elle a dit « si vous voulez la guerre avec nous, bah, vous nous trouverez ». Donc c'est dans ce sens-là où je dis que c'était violent. Et en même temps, c'est un aveu de faiblesse, parce que le Reconquête est autour de 5%. C'est vraiment le seuil pour l'élection. Au-dessus de 5, vous avez des élus, en dessous de 5, vous n'avez pas d'élus. Et donc, vraiment, selon les enquêtes d'opinion, ils sont quelquefois au-dessus, quelquefois en dessous. Donc, c'est un peu compliqué. Et donc, il y a eu des appels aux Frexiteurs, on les a entendus, en disant « Nous, on n'est pas pour le Frexit, à Reconquête, mais on comprend votre souffrance. » Et des appels aux Républicains, aux RN, avec des « On vous aime » répétés plusieurs fois par Zemmour. Donc, quelque part, voilà, force, on est mobilisé, on est toujours le parti, ça c'est l'argument de Zemmour, qui a le plus de militants parmi tous les partis politiques, mais reconnaissance d'un aveu de faiblesse. Voilà, il a caressé dans le sens du poil, peut-être pas du poil, mais en tout cas, il a quand même eu des mots assez aimables et affables, aussi bien Marion Maréchal que Éric Zemmour, pour les électeurs LR ou les électeurs du Rassemblement National. Et je termine juste, Marion Maréchal qui a appelé Jordan et Marine toujours par leur prénom pendant ses discours.
Rachel Garaval-Carcel, comment est-ce qu'elle peut grappiller des points justement, Marion Maréchal, sur le Rassemblement National de Jordan Bardella?
Je trouve que c'est intéressant l'extrait qu'on a entendu là. Elle dit finalement pourquoi partir alors qu'on va être majoritaire. C'est exactement ce qu'a dit Jordan Bardella la semaine dernière en disant, je ne sais plus quelle était tout à fait sa formule, mais enfin c'était à peu près approchant. L'un des arguments de Marion Maréchal Le Pen par rapport de Marion Maréchal par rapport à Jordan Bardella, c'est que elle va jouer sur son alliance avec Giorgia Meloni et dans le groupe dans lequel Reconquête va siéger au Parlement européen, c'est le groupe de la présidente du Conseil italien.
Elle n'est pas le Rassemblement national.
Voilà, le Rassemblement national est dans un autre groupe d'extrême droite. Or, celui qui est le plus qui peut le plus progresser et surtout qui peut le plus collaborer, si je puis dire, avec la droite traditionnelle européenne, c'est le groupe de Giorgia Meloni et de Reconquête. D'une certaine manière, elle va tenter le vote utile, mais le vote utile dans les institutions européennes, bon, gros défi quand même de réussir à convaincre les électeurs quand vous avez une autre liste d'extrême droite qui approche les 30%.
Jean-Christophe Ploquin, est-ce qu'elle joue sa survie politique déjà en quelque sorte, Mario Maréchal, avec cette élection?
Je pense que le parti Reconquête va se fixer l'objectif de la prochaine présidentielle et il tiendra au moins jusque-là. Et donc on va voir effectivement quel résultat ils vont obtenir lors de cette élection. Ce qui est intéressant effectivement, c'est un petit peu ce wishful thinking, comme on dit en mauvais français. Finalement, on va avoir la majorité. Bon, ils n'y sont pas encore. Il y a effectivement deux groupes d'extrême droite ou de droite radicale ou de droite de la droite au Parlement européen. Dans l'un, il y a le Rassemblement national et la Ligue de Matteo Salvini. Dans l'autre, il y a Reconquête et effectivement Salvini et le parti Mélanie. Polonais, Meloni et le parti polonais PiS. Voilà, donc ils vont probablement globalement un petit peu progresser. Les derniers sondages montrent que le Parti populaire européen, qui est le grand parti de centre droit, va sans doute garder la même force. Les sociaux-démocrates aussi. Donc il est probable que ce sera une majorité à peu près identique à celle du mandat sortant, qui part du Parti populaire européen, qui va jusqu'aux sociaux-démocrates, qui va continuer finalement à donner le rythme au Parlement européen. Mais voilà, c'est sûr que l'extrême droite espère profiter d'une dynamique lors de ces élections européennes.
Amélie Le Breton, vous vouliez nous parler de la différence entre les meetings de Raphaël Glucksmann et de Marion Maréchal aujourd'hui.
Oui, quand vous avez vu les images, Raphaël Glucksmann, il avait pas de décor derrière lui, il avait un micro-main, on n'avait pas une scénographie waouh.
Très sobre.
Très sobre. Mais ce qui est normal, puisqu'on estime dans la communication politique souvent que les meetings de grande ampleur, on les réserve pour la fin de la campagne, pour vraiment montrer qu'il y a une émulation sur les derniers jours. Et là, on a, avec Reconquête, complètement l'inverse. Moi, j'étais très étonnée parce qu'on avait presque l'impression d'avoir un meeting pour une élection présidentielle. On avait...
Ce qui a fait renaissance aussi, en quelque sorte, hier, avec énormément de ministres, le premier ministre
qui
était présent.
Mais ils affichaient, mais ils sont pas au même niveau dans les sondages, et on attend presque d'un parti de majorité, enfin relative, d'amener tout de suite d'avoir une position de force. Là, on a eu une volonté d'avoir quelque chose de grandiose avec beaucoup de caméras. Alors les images étaient d'ailleurs fournies par le parti, Reconquête, je le précise, aux médias. Et donc il y avait vraiment, c'était très léché. Et ça, c'est normalement pour les fins de campagne. Et c'est intéressant de voir ça chez eux. Pourquoi ?
Comment vous l'expliquez, du coup ?
Bah parce qu'en fait, justement, ils sont un peu aux abois. Ils n'ont pas le choix de faire un score qui est au-dessus de 5% s'ils veulent être remboursés d'une partie de la campagne. C'est 47% qu'on rembourse une fois qu'on a atteint les 5%.
C'est 3, ouais.
3%.
Sur les européennes, pardon, c'est ça qui est la chance par rapport à la présidentielle, c'est 3%.
Oui, excusez-moi.
Et ça explique pour ça pourquoi il y a beaucoup de listes, parce que c'est un seuil qui est un peu plus atteignable qu'à la présidentielle.
Et là, en fait, en faisant, ils savent très bien qu'il faut aujourd'hui montrer qu'ils sont un parti solide et un parti fort pour ramener maintenant des électeurs vers eux et pour essayer d'avoir une dynamique sur les prochaines semaines, là où d'autres partis comme Raphaël Glucksmann avec Place Publique, Parti Socialiste, savent qu'ils ont beaucoup plus de temps pour dérouler parce qu'ils sont beaucoup plus installés en termes électoraux. Donc moi, j'ai trouvé que c'était un meeting qui était intéressant, mais qui montrait un peu la fébrilité de Reconquête sur cette partie.
Et on va continuer à parler de l'extrême droite, mais cette fois au Portugal. Ce sera juste après l'essentiel, le fil info de 20h40, Stéphane Milhomme.
Les recherches sont suspendues dans le Gard à cause de la nuit. Les sauveteurs tentent toujours de retrouver un père de famille et ses deux enfants emportés hier soir par les eaux. Le corps d'un sexagénaire, mais aussi de deux femmes, ont été retrouvés dans la journée à travers deux interventions distinctes au nord d'Alès. Près de 3100 foyers restent privés d'électricité à cause de ces intempéries en Auvergne-Rhône-Alpes, principalement en Ardèche et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Enedis signale que les conditions d'accès rendues difficiles par le mauvais temps compliquent l'intervention de ces centaines de techniciens. Emmanuel Macron se prononce en faveur d'une aide à mourir sous condition dans une interview à La Croix et Libération. Un texte doit être présenté en Conseil des ministres le mois prochain, à l'Assemblée au mois de mai. Les patients concernés se verront prescrire un produit létal à s'administrer seul ou avec assistance. Les malades adultes devront être atteints d'une maladie incurable avec pronostic vital engagé à court ou moyen terme. À 3 mois des élections européennes, le meeting de campagne de Raphaël Glucksmann depuis Lyon. La tête de liste des socialistes appelle le camp présidentiel à cesser de rejouer le même match. Pour lui, nous ne sommes pas condamnés au duel Macron-extrême droite. Et puis Marseille-Nantes dès 20h45 pour refermer la 25e journée de Ligue 1 de football. L'OM a déjà brillé mercredi, jeudi dernier en Ligue Europa. Nantes est en bas du tableau de Ligue 1. Avant cela, Lille et Rennes se neutralisent de partout, mais Lille est à nouveau au pied du podium.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et avant les européennes, d'autres élections intéressent les Portugais. Ce dimanche, des législatives anticipées après 8 ans passés au pouvoir. Les socialistes risquent bien de passer la main à la droite, d'après les derniers sondages. Autre enjeu, la montée de l'extrême droite avec le parti Chega et son leader André Ventura. Analyse sur France Info de Victor Pereira, professeur d'histoire à l'Université de Lisbonne.
Le Portugal, pendant très longtemps, pendant quasiment 45 ans, faisait figure d'exception en Europe occidentale parce que l'extrême droite, certes, existait, il y avait des partis d'extrême droite, mais c'était groupusculaire. Ils avaient souvent moins de 1% des suffrages. Et depuis 2019, avec la création de ce parti, Chega, dirigé par André Ventura, l'extrême droite, d'une part, est rentrée au Parlement en 2019, puis a eu 12 parlementaires en 2022 et ne cesse de croître en termes de députés, mais aussi en termes de visibilité, comme c'est en quelque sorte la nouveauté, comme son leader multiplie les phrases choc et les provocations. Il est au cœur maintenant des débats politiques et il a été au cœur de cette campagne. Et donc c'est un changement au Portugal et d'autant plus qu'on approche des commémorations des 50 ans du 25 avril qui ont mis fin à 40 ans de dictature d'extrême droite.
Dave Godoui, le Portugal devient finalement un parti comme les autres avec la montée des populistes et de l'extrême droite?
Alors oui, un pays comme les autres. Alors il faut juste, pour comparer avec notre situation, leur espérance c'est autour de 15% à Chega.
Jusqu'à donc, 18 selon certains
voilà,
sondages.
Voilà, bon, donc on n'est pas encore, et c'est pas eux qui vont gagner les élections. A priori, l'événement pour le Portugal, c'est quand même un passage de la gauche à la droite. A priori, c'est ça qui va intéresser.
Et sans alliance avec l'extrême droite.
Et sans alliance avec l'extrême droite.
C'est ce que promet la droite.
C'est ce que promet la droite. Voilà, ça,
le
c'est...
leader de la droite.
Voilà. Mais nous, c'est vrai que, voilà, nous, de notre regard, à la fois français, mais aussi dans la perspective des élections européennes, voilà.
Et de monter des populistes.
Et de monter des populistes. On dit, voilà, un pays qui, en effet, devrait être immunisé. Parce qu'il a vécu une dictature Salazar et que, en plus, c'est l'année anniversaire de la révolution des œillets qui s'en débarrasse. Voilà, il devrait être plus immunisé que nous, qui remontons à plus loin les expériences de ce type. Mais voilà, c'est, on va l'air, donc c'est ça la lecture qui est faite. Mais voilà, c'est peut-être pas la lecture totalement interne au Portugal.
Jean-Christophe Ploquin, qu'est-ce que vous retenez, vous, la victoire probable de la droite, les résultats dans un quart d'heure, a priori, ou cette montée, effectivement?
Ah, moi, je partage bien l'avis de Daïk, effectivement. Je pense que c'est évidemment qu'on voit un peu cette poussée de l'extrême droite. Ce qui est notable, c'est que, visiblement, il cartonne, entre guillemets, beaucoup auprès des jeunes, ce leader. Il utilise énormément les réseaux sociaux. Les jeunes, du coup, qui n'ont pas la mémoire aussi de Salazar, ça leur parle sans doute pas beaucoup. Donc, il y a effectivement ce phénomène de rupture, de nouvelle offre politique qui arrive et qui séduit une partie de l'électorat. Et sans doute aussi, bon, les socialistes étaient au pouvoir depuis pas mal d'années, voilà, donc vieillissement, enfin voilà, usure du pouvoir. Et le parti de centre-droit a du mal à effectivement se distinguer sur le plan programmatique. Donc voilà, il y a de la place pour un nouveau venu. Mais voilà, on verra effectivement sans doute un gouvernement de centre-droit et ce seront eux les vrais vainqueurs.
Rachel Garaval-Carcel, la droite qui était pourtant au pouvoir lors de la période de récession, de forte crise entre 2011 et 2015 et qui pourrait donc revenir au pouvoir ce soir.
Oui, bah, il y a des jeux de bascule politique, évidemment. Et ce que je trouve très original dans cette campagne, parce que là, le Parti socialiste, parce que c'est aussi le PS au Portugal, avait une majorité absolue après les élections d'il y a 2 ans. Il faut quand même reparler des raisons qui ont poussé à ces élections anticipées, qui sont assez rocambolesques, c'est-à-dire que une affaire de corruption dans le gouvernement d'Antonio Costa, mais a priori Antonio Costa était mis en cause par homonymie.
Effectivement, c'était pas lui qui était en cause, mais il avait démissionné par probité en quelque sorte.
Mais en fait, voilà, il y a quelque chose d'assez incroyable. D'ailleurs, le PS est un peu remonté dans les sondages, et surtout, on parle d'Antonio Costa pour devenir le président du Conseil européen après les élections européennes. Donc, ça serait sans doute plus facile pour lui si les socialistes gagnaient les élections ce soir, car ça fait une voix de plus, évidemment, autour de la table. Mais il faudra voir, parce que voilà, il y a deux ans, lors des dernières élections, les sondages ne donnaient pas du tout de majorité absolue aux socialistes, voilà, et la droite et les socialistes sont pas si loin dans les sondages.
Amélie Le Breton, votre regard sur ces élections législatives anticipées portugaises?
Alors moi, je trouve que 15-18%, c'est pas anodin dans un pays comme le Portugal, et surtout que le chef de ce parti, donc, a 41 ans, donc il peut encore faire un très beau parcours politique et poursuivre un peu l'œuvre qu'il a menée, parce que ce monsieur, André Ventura, il a donc 41 ans, mais avant d'être à Chega, il était quand même centriste. Voilà, il a fait partie du Parti social-démocrate. Donc, est plutôt.
Mais le Parti social-démocrate, c'est le parti de droite.
Centre-droit, voilà, pardon. C'est le Parti social-démocrate, centre-droit. Ce que je veux dire, c'est qu'il a, il vient pas, il vient déjà d'un milieu politique, mais pas extrémiste. Et ce que moi je relève surtout, c'est que dans la communication politique et dans la politique en général, vous avez des hommes et des femmes qui sont très ambitieux et qui se créent un nouveau couloir de nage ou un nouveau territoire politique, là où il y a un vide et où ils se disent, je peux être élu là, parce que lui, il a pas réussi à être élu quand il était au sein du Parti social-démocrate, qui est effectivement plus à droite. Et là, en fait, comme il est tout seul, c'est beaucoup plus facile d'amener à lui. Et puis, il a aussi des techniques qui sont des techniques que moi je trouve un peu éculées, mais qui fonctionnent encore en communication politique, où il utilise beaucoup la gouaille. Un de ses modèles, c'est Nicolas Sarkozy, quand il était ministre du budget, enfin ministre de l'Intérieur, et qui parlait de la racaille dans les quartiers. Moi, je me dis aussi qu'il doit aussi regarder ce qui se passe en Argentine, hein, qu'il a aussi dû beaucoup utiliser dans son vocabulaire ce qu'a fait le président argentin. Javier Milei, dans sa campagne, et ça fonctionne, parce que en communication politique, on dit souvent good buzz is buzz, bad buzz is buzz. Et ben là, on est dans une personnalité où lui, ce qu'il fait, c'est créer la polémique, et comme ça les caméras sont tournées vers lui. Enfin, depuis plusieurs années, c'est ce qu'il fait, et ça fonctionne, parce que derrière, il peut dérouler son message. Il a aussi pas mal de dans ses discours, il a un apport assez messianique presque. Il aime bien cette aura des grands chefs, et comme il a 40 ans, comme il est déjà à 15%, moi je suis un peu plus inquiète sur sa possible progression dans les prochaines années au Portugal, dans un pays, encore une fois, où on pensait que ce serait compliqué que les partis extrémistes s'installent de cette manière.
Et on retrouve ce profil d'Aïkodou, d'ailleurs, de politiques qui n'en sont pas auparavant, qui sont parfois assez jeunes, qui viennent de milieux divers, en l'occurrence lui était commentateur sportif, des inconnus qui finalement voilà arrivent comme ça au premier plan, ou en tout cas qui jouent des rôles importants.
Oui, et puis qui ne sont pas associés à des partis qui ont alterné la gouvernance au fur et à mesure. C'est un peu ce qu'on a vu en France avec Emmanuel Macron. Ben voilà, ça se passe peut-être de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est un peu la même chose.
Un dernier mot, Rachel.
Pour vous dire ce que vous disiez, c'est vrai que voilà, 15-17%, c'est sûr, c'est pas anodin. Après, on a toujours tendance en France à parler des partis d'extrême droite européens quand ils montent et ne pas parler que quand ils baissent. Et ce qui arrive aussi, par exemple, en Espagne, qui a aussi longtemps été un pays qui faisait figure d'exception, où il n'y avait pas d'extrême droite sur le champ politique, Vox a plutôt reculé lors des dernières élections, mais c'est vrai que ça fait moins la une.
Il faut le dire aussi, effectivement, ce sera peut-être l'objet d'un futur débat dans les informés. La dernière partie dans un instant, de la réalité à la fiction, on parlera des Oscars et du film Anatomie d'une chute. Le Fil Info d'abord, 20h50 avec vous, Stéphane Milhomme.
Et cette première réaction au projet d'Emmanuel Macron de proposer une loi sur l'aide à mourir sous conditions strictes. Il le détaille au quotidien La Croix et Libération. Jean-Luc Romero, président d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, estime que cette proposition n'est pas valable en l'état. Jean-Luc Romero regrette également que le chef de l'État dise que cette aide à mourir n'est ni un droit ni une liberté qu'il va accorder aux citoyens. Attention aux grandes marées, avec un fort coefficient attendu jusqu'à mardi. Un pêcheur à pied de 4 80 ans, est mort noyé sur l'île de Ré, en Charente-Maritime, piégé par la marée montante. Les secouristes ont tenté en vain de le ranimer. Dans le Gard, à cause des intempéries, trois corps ont été retrouvés. D'abord à Gagnères, au nord d'Alès. Il s'agit de l'automobiliste de 62 ans, porté disparu depuis hier soir. Et puis deux autres victimes, cette fois à Goudargues, deux femmes qui se trouvaient également dans un véhicule. Quatre personnes restent portées disparues dans le Gard et l'Ardèche. Neuf départements sont toujours en vigilance orange ce soir face aux intempéries. Huit face au risque de crue. La Saône-et-Loire se rajoute également à cette liste. Les européennes et le premier meeting de campagne de reconquête depuis le Dôme de Paris. La tête de liste pour le scrutin du 9 juin, c'est Marion Maréchal. Son credo, voulez-vous d'une Europe islamisée ou d'une Europe encore européenne? Et puis en Allemagne, un nouvel appel à la grève des conducteurs de train mardi prochain. Les revendications portent toujours sur le temps de travail. Les syndicats des cheminots assurent que les négociations avec la Deutsche Bahn sont toujours dans l'impasse.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Mattet.
Et parlons cinéma pour terminer ces informés avec les Oscars cette nuit aux États-Unis. Si le film Oppenheimer de Christopher Nolan apparaît comme le grand favori en France, tous les regards se tournent vers Justine Triet et son film Anatomie d'une chute, déjà Palme d'Or et en course pour dans 5 catégories, dont celle de meilleur film après avoir reçu un grand nombre de prix, dont des Césars, et après une promotion de près d'un an, l'aventure s'achève pour l'équipe du film. Jean-Christophe Ploguin, quelle que soit l'issue cette nuit aux Oscars, quel parcours tout de même pour ce film, de la Palme d'Or jusqu'aux Oscars, donc quel tapis rouge à la nuit prochaine.
Ouais, de fait, moi je suis assez admiratif du parcours et je suis d'autant plus admiratif que moi-même je n'avais pas forcément trouvé que c'était un super grand film. J'ai évidemment beaucoup apprécié, enfin on n'est pas au masque et la plume, je suis vraiment pas un critique de cinéma, donc il y a tout un certainement des aspects techniques et de fabrication du film qui m'ont échappé. Sur le scénario, j'ai été très touché évidemment par le personnage de l'enfant, et on voit bien que le film se joue beaucoup sur lui, et c'est extrêmement touchant. Après, l'intrigue en elle-même, je l'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé qu'il y avait. Je suis pas non plus un fan des films d'action, mais je trouvais que c'était quand même un peu lent la progression. Et voilà, les scènes de tribunal, personnellement, ça ne me convainc pas du tout. Donc voilà, vous voyez, je suis pas un grand admirateur. J'ai eu beaucoup de plaisir à le voir. J'ai été, c'est vrai, très étonné qu'il ait la Palme d'Or. Et du coup, ça me rend très modeste et très humble. Parce que quand je vois sa carrière, je me dis qu'effectivement, je suis vraiment un pitoyable amateur. Et évidemment, je souhaite les meilleures chances ce soir à Hollywood pour le film de Justine Triet.
Rachel Garvel-Carcel, est-ce magnifique. Que vous comprenez-vous l'engouement autour de ce film?
Alors moi j'ai bien aimé, pareil aussi, je ne suis pas critique de cinéma, donc j'ai du mal à...
Aucun d'entre nous, mais on a le droit de s'exprimer.
Voilà. Non mais voilà, il faut quand même parler de là où on est. Non, moi je suis très impressionné du parcours, parce que le dernier film français qui avait eu un grand parcours aux Oscars, c'était The Artist, mm-hmm. C'était il y a plus de 10 ans, 15 mm-hmm. ans. Et le film paraissait presque plus formaté pour plaire aux Américains. C'est vrai que là, quand on voit Anatomie d'une chute, on se dit pas spontanément, tiens, ça peut faire concurrence à Oppenheimer, quoi. Mais voilà, moi, je pense que je dormirai à l'heure où on aura les réponses, mais j'espère me réveiller avec de bonnes nouvelles. En plus, c'est le film d'une femme, c'est pas anodin non plus. Ça n'est jamais que la troisième femme Palme d'Or depuis 70 ans. Donc c'est quelque chose de très important.
Taïko Doui, vous le dites clairement, vous n'avez pas aimé le film.
Non, alors, ce film ne m'a pas touché, parce que je me fichais du sort qui pouvait arriver, mais il est extrêmement bien mis en scène, il est extrêmement bien interprété. Après, je ne sais pas si le fait qu'il ait déjà eu autant de prix, ça puisse jouer contre lui par rapport aux gens qui votent aux Oscars.
Vous voter utile, vous voulez dire.
Non, mais est-ce que s'ils disent il a déjà eu trop de prix, on peut le donner à d'autres gens, on sait Christopher
c'est
Nolan
une campagne n'a très jamais politique aussi aux États-Unis.
Voilà, mais Christopher Nolan n'a jamais eu de prix, il n'a jamais eu d'Oscar, donc lui pourrait peut-être l'avoir, et donc il y aura une séance de rattrapage. Elle est nommée dans 5 catégories. Donc on espère évidemment qu'elle l'ait au moins dans une catégorie.
Au moins le scénario, sans
doute. Au moins le scénario, voilà.
Amélie Breton, je vais vous poser la question bac philo de ces informés. Qu'est-ce que dit le film de notre société, de notre monde finalement?
Alors en fait, moi je vais botter en touche
heures,
et du coup je donnerai pas mon avis sur le film. Je laisse aux critiques de cinéma le soin et aux jurys pour la cérémonie. Ce qui est certain par contre, c'est ça montre l'importance aussi, ce que peut être l'importance du cinéma dans ce qu'on appelle le soft power, qu'on oublie un petit peu en France parce que c'est pas dans la culture française que le cinéma soit une façon aussi d'emmener, de rayonner à travers le monde. Les États-Unis font très attention à ça. On sait qu'il y a des pays comme la Russie, le Japon, il y a très longtemps l'Allemagne, ils avaient vraiment assumé d'être là-dessus.
La France aussi, un peu, ouais.
Oui, mais pas de manière assumée de la même manière.
Un soutien au film français, quand même.
Il y a un soutien au film français, mais aux États-Unis, vous avez carrément, par exemple, le Pentagone où la défense intervient pour, à certains moments, pour rappeler certaines valeurs américaines qu'il n'y a pas autant en France. La France, c'est beaucoup la culture française, mais pas avec les mêmes armes cinématographiques. Et moi, je me dis, ça peut montrer aussi au gouvernement qu'il ne faut surtout pas lâcher, justement, les subventions qui ont tendance à être un peu parfois écornées ou qu'on oublie parce que quand il y a des milliards à trouver, comme il n'y a pas très longtemps, Bruno Le Maire nous l'a dit, parfois le cinéma est un peu victime de ça. Et là, on nous rappelle que, non, le cinéma français doit continuer de rayonner, il faut l'aider pour ça.
Tout est politique, ce sera finalement le mot de la fin sur ce film.
Et économique.
Économique également, Anatomie d'une chute, en lisant 5 catégories, dont celui de meilleur film. Tiens, un petit pronostic, vous pensez qu'il aura combien d'Oscars? Entre 0 et 5, Rachel?
Allez, 2.
Allez, 2, Jean-Christophe Ploquin.
2,5.
2,5, la moitié.
1.
Daïc, 1, le strict minimum, et Amélie Le Breton.
2.
Allez, 2, voilà, on aura la réponse demain matin. Merci à tous les quatre d'être venus ce soir. Amélie Le Breton, présidente de l'agence de communication Coriolink, Rachel Garaval-Carcel, journaliste politique à 20 minutes, Daïc Audouy, France Info Télé, et vous, Jean-Christophe Ploquin, rédacteur en chef de La Croix. On se quitte en rappelant, bien évidemment, la une demain de La Croix, Jean-Christophe.
Voilà, l'annonce d'Emmanuel Macron sur le projet de loi fin de vie.
À lire dans La Croix et Libération. Un mot de 20 minutes également, Rachel.
Ouais, à la une, un reportage sur une entreprise qui tente les congés illimités.
Les congés illimités, et pourquoi pas. Merci Rachel, merci à tous les quatre d'avoir été ce soir dans Les Informés. Les Informés qui reviennent demain matin à 9h. Très bonne soirée à tous.